Alléluia. Et bien, soyez les bienvenus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ouvrons nos cœurs. Nous allons prier. Seigneur Père, nous voulons te remercier ce matin. Ton peuple est assemblé pour recevoir la parole incorruptible de Dieu. Alléluia. Je prie ce matin qu'elle produise la vie dans nos cœurs, qu'elle produise, Père, une semence éternelle qui va nous transformer, que cette parole nous enrichisse, Seigneur, que nous la recevions, nous l'écoutons et nous la recevons. Alléluia. Et elle se plante dans une bonne terre et elle va produire des fruits, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons vu la semaine dernière que Dieu nous a équipés pour vivre dans la dimension du royaume de Dieu, alléluia, pour vivre dans la puissance et dans la joie de Dieu, pour vivre une vie victorieuse. Vous vous souvenez? On va regarder simplement quelques passages, mais on avait vu la semaine dernière que le Seigneur donc nous a donné des armes. Et ce ne sont pas des armes de feu, des armes qui tuent, des armes violentes. Non, ce sont des armes surnaturelles. Ce sont des armes pour voir dans le monde spirituel. L'apôtre Paul a dit, donc, dans 2 Corinthiens, « Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes naturelles. Hein ? Les armes naturelles, c'est le couteau, l'épée, les revolvers, les kalachnikovs, les terrorismes, la violence, la colère, les coups. Les armes naturelles sont des armes méchantes qui font du mal. La voix, la parole, lorsqu'on dit des mauvaises choses, vous voyez, sont des armes aussi. Notre langue peut être une arme mauvaise. Non, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pourquoi? Parce qu'on a la nature de Dieu et que Dieu est amour. C'est pourquoi nous pouvons considérer que les armes charnelles sont des armes mauvaises. Ce sont des armes quelquefois qu'on prend malheureusement. On demande pardon à Dieu après. La colère, la violence, les mauvaises paroles sont des armes mauvaises, charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous, les chrétiens, nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes, elles sont surnaturelles par la vertu de Dieu. Et ces armes, eh bien, elles ont la puissance de renverser les forteresses, de renverser les démons, de renverser les œuvres que l'ennemi bâtit pour vraiment tromper les gens, pour les détourner de la bénédiction de Dieu. Ces armes que nous avons tous reçues, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes grâce à Dieu. Elles sont puissantes en nous. Frères et sœurs, une des plus belles choses que nous devons réaliser, nous les chrétiens, pour sortir de l'esprit religieux qui est attaché à chaque personne qui ne réalise pas que Christ vit en nous. Christ vit en nous. C'est une des plus belles choses que nous devons réaliser. C'est ce qui nous fait sortir de la peur, de la crainte, de pas qu'on puisse pas plaire à Dieu. On n'a déjà plus à Dieu entièrement puisqu'il vit en nous. Il nous a acceptés, c'est fait. Christ vit en moi, Christ vit en vous. Et parce qu'il vit en moi, j'ai de la puissance, j'ai de la force pour régler mes problèmes. Alléluia. J'ai de la force dans ce monde pour aller plus haut et pour aller plus loin. Alléluia. Tout dépend de ce que je comprends, de ce que Christ vit en moi. Alléluia. Donc vous voyez, les armes que Dieu nous a données, elles sont spirituelles et elles sont puissantes pour faire tomber. Pourquoi les forteresses? Les forteresses sont toutes sortes de pensées, de philosophies, de mentalités, de points de vue que le monde ou que nous-mêmes nous recevons dans nos familles, dans notre éducation, tout au long de notre vie, cela bâtit en nous des forteresses. Or vous savez que le terrain de prédilection du diable, c'est là. Il ne peut pas toucher à notre cœur. Il n'a pas accès, mais il veut tromper les gens au travers de mensonges qu'il communique par toutes sortes de façons, dans les médias, dans partout, dans ce que nous lisons, dans ce que nous voyons et dans ce que nous pensons aussi. Et donc le diable aime faire cela. Il aime tromper, il aime séduire et détourner les gens car il a peur que nous ayons une pleine connaissance de ce que nous sommes vraiment, les chrétiens. Vous savez, le Seigneur a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Il a osé dire ça aux pharisiens. Hein? Et il reprenait une parole dans l'écriture de l'Ancien Testament et il savait très bien de quoi il parlait. Alors ils ont voulu le lapider. Mais en fin de compte, c'est vrai que Dieu a mis, alléluia, quelque chose de divin en nous. C'est son esprit. Et son esprit maintenant, eh bien, il sera avec nous pour l'éternité. Nous vivrons sur cette terre le temps que nous avons à vivre, le plus longtemps possible. Un jour, nous partirons, mais l'Esprit qui est en nous restera toujours en nous. Parce qu'il est dit qu'il nous a scellés pour l'éternité et pour le jour de notre rédemption. Donc quand on a reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs, on a reçu le fait qu'on est un sceau, on est scellé par Dieu, on appartient à Dieu. Dieu nous voit, dans ce monde, il nous voit comme une lumière qui brille dans le monde, pour bénir le monde. Dieu connaît son peuple, il sait qui nous sommes et il sait que nos combats, ils se situent là. Tous nos combats se situent avec notre tête, nos pensées, nos choix, nos pressions, tout ce qui vient de l'extérieur. Alléluia, mais notre esprit, comme a dit Jésus, est bien disposé. Notre esprit est bien disposé. Votre esprit, mon esprit est toujours bien disposé vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Mais la chair, il est dit, elle est faible. Hein? Donc, il faut bien comprendre qu'il y a aussi un combat. Nous devons nourrir notre esprit. Nous-mêmes, nous nourrir. C'est le but de l'Église locale. Elle a pour but de fortifier chaque chrétien afin qu'il vive pleinement sa vie, notamment dans sa famille, dans son travail, dans son appel. Alléluia. Afin que chaque chrétien soit fort. Quand chaque chrétien est fort, l'Église est forte. Hein? D'accord? Donc, les armes que Dieu nous a données sont des armes puissantes. Nous avons vu la semaine dernière que dans ces armes, parmi ces armes, il y en a plusieurs, il y a les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous recevons tous les dons spirituels. Alléluia. Alors, vous savez, bientôt, il va y avoir Pâques. Nous allons fêter Pâques dignement. Et ensuite, 40 jours après Pâques, 50 jours après Pâques, je crois, il y a la Pentecôte. La Pentecôte, qui est une fête juive, vous le savez bien. C'est la fête des récoltes, c'est la fête des semences. Les gens allaient au temple, à la Pentecôte, pour amener le dixième, la dîme de ce qu'ils avaient récolté. Et c'était une grande fête à la Pentecôte qui durait plusieurs jours. Les gens mangeaient ensemble, se réjouissaient, les familles se retrouvaient. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Quand vous avez une famille, la chance d'avoir une belle famille, de vous retrouver ensemble. Par la grâce de Dieu, hein, j'ai retrouvé mes frères, j'avais perdu, mais nous nous sommes retrouvés il y a quelque temps et c'était un bonheur. On était tellement heureux d'être ensemble, de rire, de nous rappeler des bons moments de nos parents, de notre vie. Une famille est tellement précieuse. Et une famille, quand vous avez la chance d'avoir des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, c'est encore plus merveilleux. Il y a de grandes familles. Et vous savez, les meilleures joies, les plus grandes joies sont les joies que nous avons avec la famille. Quand la famille est unie et quand la famille aime Dieu, nous sommes heureux quand ils ont la même destinée. Et ça fait un bonheur extraordinaire. De même que de nous retrouver dans la maison de Dieu parce que c'est notre famille. Nous sommes ensemble comme une famille. Parce que la Bible dit dans Éphésiens qu'il y a une seule famille, la famille de Dieu. Et Dieu voit sa famille. Alors, il y a une famille locale ici, il y en a d'autres dans la ville de Vichy, dans des différentes villes. Mais Dieu a les yeux sur sa famille. Et il la conduit comment ? Par le Saint-Esprit. Et à Pentecôte, il y a eu l'événement extraordinaire. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Mais il a fallu avant le sacrifice de Christ. Christ est mort et il est ressuscité. Ensuite, l'Église a pu naître dans la puissance du Saint-Esprit. Et je vais vous parler donc ce matin de la puissance des langues. N'est-ce pas? Parce que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous parlons en langue. Et j'aimerais vous montrer dans l'Écriture que ça n'est pas une histoire bizarre, mais que c'est scripturaire de parler d'autres langues. Il est dit la langue des anges, une langue que Dieu comprend, mais que si je vous parle en langue, vous ne comprendrez pas vous. Mais Dieu la comprend. C'est important. Vous voyez, il y a 9 dons. On va les regarder, vous voulez qu'on les regarde? 1 Corinthiens 12. Il y a 9 dons spirituels. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu ces 9 dons. Ils n'opèrent pas tous en même temps, mais ils sont en nous. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître les armes que Dieu nous a données, de prier pour que Dieu multiplie ces dons dans notre vie, que nous soyons sensibles aux dons de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit en nous se manifeste par les dons spirituels. Alléluia. Les dons de l'Esprit. Regardez dans 1 Corinthiens 12, il est dit qu'il y a 9 dons. À partir du verset, par exemple, 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Vous avez 9 dons qui sont divisés en 3 catégories. Premièrement, les dons de révélation. C'est le Saint-Esprit qui vous révèle des choses que Dieu seul sait, mais que vous, vous ne pouvez pas savoir dans le naturel. Donc la parole, il est dit là, de sagesse, ou le discours de sagesse. La sagesse, c'est quelque chose que Dieu révèle de son avenir, des choses qui vont se produire, n'est-ce pas ? La parole de connaissance, c'est des choses que Dieu seul connaît dans votre vie, ou dans la région, ou dans ce que Dieu fait dans le monde. Donc c'est une parole de connaissance que Dieu seul connaît, qu'il révèle par le Saint-Esprit, par le même esprit. À un autre est donné la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons, à un autre le don d'opérer des miracles, la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc ça vous fait neuf dons. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Donc je vous ai dit la semaine dernière, sept dons étaient libérés dans l'Ancien Testament. Hein, les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. C'est la parole, ce sont les dons de révélation, ils étaient déjà dans l'Ancien Testament avec les prophètes, les rois, les gens qui étaient remplis de l'esprit. Ensuite, il y a les dons de puissance. La foi, qui est une foi puissante, surnaturelle, qui arrive de temps en temps, quand Dieu pense qu'on en a besoin, c'est une foi spéciale. Hein, ce n'est pas la foi que nous utilisons tout le temps. Donc la foi, le don des miracles et le don de guérison. Pardon. Les dons de guérison, hein, le don de la foi, les dons de guérison, le don des miracles, ce sont les dons de puissance. Nous avons besoin de demander à Dieu de libérer ces dons sur nos vies. Et troisième catégorie de dons, les dons pour parler, les dons qui passent par notre parole et qui sont inspirés. Donc, ce sont les dons de prophétie, les dons des langues et les dons d'interprétation des langues. Et donc, vous savez qu'à la Pentecôte, le don des langues s'est manifesté. Ils ont tous parlé en langue, c'est un fait, mais il y a eu un don qui s'est manifesté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens de toutes différentes nations les ont entendus parler dans leur langue maternelle. Des merveilles de Dieu. Voilà ce que font les dons. On peut regarder dans Acte 2 ce miracle. C'est comme ça que l'Église est née, chers amis. Nous sommes en 2014 aujourd'hui. 2014, je ne sais pas si ça fait 2014 ans ou plus ou moins, ça n'a pas d'importance. Mais enfin, l'Église est là dans le monde. Elle est toujours là. Elle adore Jésus. Elle est là, elle honore et elle élève le Sauveur du monde, le Seigneur. Alléluia, qu'est Jésus. Et regardez ce qui s'est passé dans Acte 2. Et vous savez qu'ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Ils attendaient quelque chose, car le Seigneur leur avait dit, attendez, réunissez-vous et attendez ce que le Père a promis, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous allez recevoir la puissance d'en haut. Et donc ils étaient tous assemblés, et tout à coup il vint du ciel un bruit, un énorme bruit. Frères et sœurs, il faut vous rappeler qu'à la Pentecôte, je vais vous rappeler, regardez-moi, la fête des Juifs, la Pentecôte, qu'est-ce qu'elle rappelle ? Elle rappelle ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Vous vous rappelez ? Il y a eu la Pâque, et ensuite, ils arrivent au pied du mont Sinaï. Et Moïse va monter et recevoir les 10 commandements, la loi de Dieu. Et il va la recevoir avec des coups de tonnerre, des éclairs, des grognements, des grondements, des énormes bruits à tel point que tout le monde est effrayé. Lorsque le Seigneur a fait descendre son Saint-Esprit, il a fait un grand bruit exprès. Parce que c'est le même moment, ça rappelle cet événement. Vous voyez ? Et Dieu inaugure l'Église à la fête de Pentecôte. Pourquoi il y a eu ce grand bruit qui a attiré les gens ? Les gens étaient à Jérusalem, ils entendent ce bruit énorme. Ils courent à l'endroit de ce bruit et ils se réunissent par milliers devant la chambre haute. Regardez, il faut bien comprendre pourquoi il y a ce bruit. Ce n'est pas un petit bruit comme on entend, il y a de l'orage et même un grand vent. Ce n'est pas ça, c'était énorme. Est-ce que vous imaginez si vous entendez un énorme bruit dans la ville, vous allez courir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Le Seigneur a voulu marquer un grand coup et rappeler qu'un autre temps s'ouvre, qu'une nouvelle dispensation se manifeste, c'est le temps de l'Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va descendre puissamment sur les apôtres, sur les disciples qui sont assemblés. Alors regardez ce qui se passe. Tout à coup, alors qu'ils étaient assemblés dans un même lieu, il vint du ciel. Du ciel. Personne ne peut faire cela. C'est Dieu le Père qui a choisi de libérer son esprit du ciel. Ce que vous avez en vous est sacré, ça vient du ciel. Donc vous êtes tellement divin grâce au Saint-Esprit que vous devez vous regarder les uns les autres avec tellement de respect et d'amour parce que nous avons tous la nature de Dieu en nous. Alléluia. Hein? Alors regardez, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Vous imaginez la surprise ? Des langues de feu partout qui arrivent là, et qui se déposent sur chacun d'eux. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça les brûle à l'intérieur, et ils vont être remplis du Saint-Esprit, et ils vont se mettre à parler en langue. Ça, c'est le miracle de l'Église. L'Église est née avec les langues, avec ce baptême-là. Il faut bien le comprendre, frères et sœurs. Il faut revenir à cette dimension. Il faut bien comprendre que c'est scripturaire d'être rempli de l'Esprit et de parler en d'autres langues. C'est normal. Vous voyez ? Et donc, le fait qu'on rationalise tellement, on veut être religieux, aller faire ses Pâques, etc. On oublie que Dieu a dit, l'Église, c'est la puissance, je vais libérer ma puissance. Vous allez parler d'autres langues, mais vous allez avoir un vêtement, une arme puissante, surnaturelle, avec les dons. Et vous allez transformer votre monde. Alléluia, c'est grand. Donc, regardez, des langues semblables, ils se posèrent sur chacun d'eux. Hommes et femmes, c'était la première fois. Ils étaient réunis, n'étaient pas séparés. Il n'y avait pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ils étaient tous ensemble. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait toutes les personnes que Jésus avait soutenues, les hommes et les femmes, les disciples. 120 personnes étaient là. Au départ, ils étaient plus de 500. Mais vous voyez, c'est comme ça. Hein, il y a de l'épuration, il y a de l'épuration. L'important, c'est de tenir bon. Et ils étaient plus que 120, mais 120 prêts, alléluia, prêts à recevoir, prêts, bouillants pour Dieu, alléluia. Et ils ont reçu ce feu, car le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est un feu. Vous savez, Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau, moi, hein, pour le baptême de repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême de feu, que Dieu ranime son feu en nous. Alléluia, que nous ayons du feu en nous. Nous serons, et nous avons été, pardon, baptisés de feu. Donc, c'est pourquoi des langues de feu, semblables à des langues de feu, se posèrent sur chacun d'eux. Et regardez bien, et ils se mirent à parler. Comment ? Dans des langues inconnues, ce qu'on appelle, ils ont baragouiné une autre langue. Votre langue, pour parler à Dieu. C'est très précieux ce que je vous dis là. On ne peut pas mettre de côté cela. Si vous êtes chrétien, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Si vous dites « je vais à l'église » donc et que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, aujourd'hui vous serez baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ce matin ? Vous le serez si vous le désirez, bien sûr. Mais c'est important parce que l'église est née avec le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Et nous allons voir à quoi sert le parler en langue. Mais premièrement, je vais vous montrer combien le parler en langue est scripturaire. Parce que s'il n'y avait que cette écriture-là pour vous enseigner les langues, ça ne suffirait pas. Toutes les doctrines de Dieu, les enseignements bibliques, sont supportés par plusieurs versets. Vous voyez ? Et donc, regardons quelques passages. J'en ai noté là, par exemple, Acte 10, le parler en langue. Vous voulez le voir avec moi ? Acte 10, verset 44. Notez-le. Dans votre carnet, verset 44, cela vous donne des forces pour comprendre bien que Pierre est allé à Césarée, n'est-ce pas, pour rencontrer Corneille, car Corneille était assemblé avec toute sa famille. Ils attendaient la venue de Pierre parce qu'ils ne pouvaient pas être sauvés. Ils avaient envie d'entrer dans le royaume de Dieu, mais ils ne pouvaient pas. Il fallait qu'ils entendent. Vous voyez, on n'entre pas dans le royaume de Dieu comme ça. On a besoin de recevoir la parole. Et donc Pierre est arrivé, il leur a libéré la parole de Dieu, il a parlé de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez le verset 44. le verset 45, on va prendre 44, pardon. Comme Pierre prononçait encore ces mots, il leur parlait de Jésus, et qu'il était mort et ressuscité, qu'il a amené une vie nouvelle et qu'il a fait des miracles. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comment est-ce qu'on peut savoir que le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, étant donné que le Saint-Esprit, à part Jésus, hein, où Jean-Baptiste a vu une colombe, comme une colombe, ça veut dire un esprit de pureté et de douceur aussi qui est venu sur Jésus. Mais autrement, comment est-ce qu'on peut savoir que le Saint-Esprit est sur quelqu'un? Eh bien, regardez. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Comment ils savaient que le Saint-Esprit était descendu sur ces gens-là, qui étaient des païens, issus des Italiens, de la cohorte italienne? Comment ils savaient cela? Parce qu'ils les entendaient parler en langue et prophétiser. N'oubliez pas la prophétie. Le parler en langue et la prophétie. Donc, vous voyez, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Parler en langue et prophétiser. Alléluia. Est-ce que vous voulez voir un autre passage? Eh bien, vous avez Acte 19. Acte 19, c'est l'apôtre Paul qui arrive à Éphèse. À Éphèse, il rencontre 12 gars. Hein? 12 hommes. Acte 19. Et alors, ils parlent ensemble et vous savez, l'apôtre Paul, il parlait aux gens. Nous, chrétiens, nous devons parler aux gens. Nous ne devons pas attendre qu'ils nous parlent. Nous devons parler aux gens. Nous devons être des commerciaux. Vous savez, je reconnais les bons commerciaux. Ils parlent. Hein? Regardez, nous avons Albert. C'est un excellent commercial. Il parle. Il aime parler. Hein? Nous avons sûrement d'autres frères et sœurs. Mais vous savez, quand on a peur des gens, on est muté, on est dans notre mutisme, on est fermé. Que Dieu nous libère, parce qu'on a besoin d'aller vers les gens. Et vous savez, évangéliser au marché couvert le samedi matin, ça nous permet de parler, d'aller vers les gens, de vaincre nos peurs, nos craintes de l'autre, et puis d'avoir de l'assurance. Et ça fait du bien, parce qu'on entend toutes sortes de choses. Moi, hier, j'étais étonnée d'une dame qui m'a dit « Ah, vous êtes protestant !» Alors, je suis contente parce que moi, je suis très catholique, mais je vais dans l'Est, quelquefois, et lorsque je vais dans une église protestante, ce que j'aime, alors je m'attendais à une parole extraordinaire, c'est les petits coussins qu'on se met. Alors là, ah, il y a des petits coussins, c'est agréable, parce qu'à l'église catholique, qu'est-ce qu'on a mal aux fesses. Et bien, ce qu'elle aimait, c'était les petits coussins. Alors, je lui ai dit quand même, il n'y a pas autre chose que vous aimez davantage, etc. Enfin, j'ai rigolé, mais elle m'en a parlé pendant au moins quelques minutes de ces petits coussins qu'elle trouvait à l'église protestante, qui fait qu'elle allait à cause des petits coussins. S'il n'y a que ça. Bref, c'était rigolo. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'apôtre Paul arrive et qu'il parle à ces gars, 12 gars, et il leur parle. Et frères et sœurs, ayons de l'audace pour parler gentiment aux gens, toujours gentiment, avec sourire. Et quand ils vous envoient promener, on les laisse nous envoyer promener, on ne va pas leur dire « Ah, yin, 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 yin », on ne dit rien. Hein? Les gens ont le droit de nous envoyer promener parce qu'on vient vers eux et c'est nous qui on les agresse d'une certaine façon, le moins possible, en leur donnant des tracts, en leur disant « Bon, on voudrait vous faire connaître notre église, vous savez, on prie, etc. » Donc, ils sont tous surpris. « Non, non, ça ne m'intéresse pas. » Eh bien, tant pis. Il ne faut pas être choqué de cela. Hein, il faut les bénir et continuer. Donc, voyez, l'apôtre Paul, il part et il dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils disent « Non, non, on n'a même pas appris qu'il y avait un Saint-Esprit. » Alors, l'apôtre Paul, lui, c'est un homme de puissance. Et il dit « Bon, si vous voulez entrer dans l'Église comme ça, il faut aller plus loin. » Regardez ce qu'il leur dit, acte 19. Sur ces paroles, donc, verset 4, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. » Et sur ces paroles, c'est-à-dire en Jésus, hein, « ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. » Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez, vous avez trois exemples là dans la parole. Acte 2, ils parlaient en langue hein, et prophétisaient, ils prophétisaient et parlaient en langue. Vous avez la capacité non seulement de parler en langue, mais de prophétiser. les paroles de bénédiction qui sortent de votre bouche ont un effet sur le monde dans lequel vous vivez, ont un effet sur la société, sur votre famille, sur votre maison, sur vos enfants, sur ce monde. C'est important de prophétiser les bonnes choses. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Dieu a dit « ne maudissez pas ». Ne maudissez pas. Si vous avez maudit, demandez pardon à Dieu, brisez vos paroles. Bénissez. La bénédiction est bien plus puissante que tout ce que les sorciers peuvent dire et faire. Alléluia. La bénédiction libère la puissance de Dieu. Donc voilà le Saint-Esprit, frères et sœurs. Alors maintenant, s'il parlait en langue, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné une langue nouvelle, incompréhensible? Regardez, premièrement, on va voir d'abord ce que l'utilité de cette langue. Et prenez 1 Corinthiens 14. Est-ce que vous me suivez là, frères et sœurs? Alléluia. 1 Corinthiens 14. Parce que dans 1 Corinthiens 14, il faut bien comprendre ce que Dieu dit dans ce passage. Dieu explique aux Corinthiens qui faisaient une pagaille terrible entre le parler en langue, les langues. Ils priaient n'importe comment. Il y avait une grosse confusion avec les dons de l'esprit dans l'église de Corinthe. Il veut mettre de l'ordre dans le culte. Vous comprenez? Le but, c'est de mettre de l'ordre dans le culte en leur disant, dans le culte, on ne parle pas en langue aux gens. Ils parlaient en langue beaucoup. Ils faisaient n'importe quoi. Hein? Et ils prophétisaient tous les uns en même temps vis-à-vis des autres. Et c'était, il y avait la pagaille totale. Alors l'apôtre Paul veut mettre de l'ordre. Mais ce qu'il dit a trait à ce que nous devons savoir des langues en ce qui concerne simplement parler en langue. Parce que je ne vous parle pas du don des langues. Ce matin, je vous parle de parler en langue. Hein? Avec le Saint-Esprit, nous avons reçu les langues. Alléluia. Et avec les langues, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? En quoi elles vont nous être utiles, ces langues? Alors, dans 1 Corinthiens 14, on nous dit « rechercher l'amour hein? ». Barrer charité, ça n'a rien à voir. C'est agapé, amour. Hein? L'amour de Dieu, ça veut dire « recherchons toujours l'amour ». Vivons dans l'amour. Ayons vraiment de l'amour dans notre monde. Les gens sont touchés par l'amour que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres. Et on ne fait pas assez de gestes d'amour. On est tellement attaché à tout notre travail, nos occupations, que quand on fait quelque chose, petite chose pour faire plaisir à quelqu'un, les gens sont tellement touchés. Nous-mêmes, on est touchés par les gestes d'affection qu'on nous donne. Hein? Donc pour les autres, c'est pareil. Donc rechercher l'amour et aspirer, désirer ardemment les dons spirituels. Mais là, il dit surtout celui de prophétie parce qu'il parle des cultes. Et dans les cultes, il y avait beaucoup de prophètes qui prophétisaient. Hein? Et regardez ce qu'il dit, verset 2, « Celui qui parle en langue », là ce n'est pas le don, c'est le parler en langue que nous avons reçu à la Pentecôte. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Ah, ça veut dire nous parlons à Dieu en français, mais c'est vite limité. Mais quand nous parlons en langue, nous disons des choses que nous ne comprenons pas avec notre tête, mais qui sont comprises par Dieu. Ce sont les langues. Regardez, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Moi, je ne vais pas vous parler en langue. Vous n'allez pas me parler en langue, je ne vous comprendrai pas. Hein? Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça veut dire, frères et sœurs, parlons en langue. Nous avons besoin d'avoir une vie, et je vous allez voir pourquoi, parce que nous avons besoin de nous ressourcer. Et le parler en langue nous a donné à la Pentecôte, ce n'est pas pour rien. Si le parler en langue nous a été donné à la Pentecôte, c'est pour qu'on l'utilise. Il est dit que ce sont les langues des anges. Ça veut dire que c'est compréhensible dans le ciel, mais pas sur la terre. C'est bizarre. Mais Dieu fait des choses bizarres. Dieu fait des choses qui sont bizarres à notre tête. Parce que Dieu est Dieu. Il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de la création. Il a dit « Mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. » Donc ses voix sont bien au-dessus de nos voix. Ces voix n'ont rien à voir avec les nôtres. Et si nous suivions notre propre voie, nous ne serions peut-être pas là. Nous n'aurions même pas accepté Jésus dans notre cœur. Où serions-nous? Mais nous avons accepté Jésus et nous sommes là ce matin parce que nous suivons sa voie. Amen. Alors regardez ce qu'il dit. Celui qui parle en langue parle à Dieu et il dit des mystères à Dieu. Soyez encouragés ce matin. Ces mystères, nous allons voir, ces mystères sont puissants parce qu'ils ont un rapport avec la rédemption. C'est lorsque nous parlons à Dieu, nous prions à Dieu. Ce n'est pas se battre la prière en langue, c'est parler doucement à Dieu, par l'Esprit. Lorsque nous prions, nous disons des choses qu'ensuite le Saint-Esprit va nous révéler. dans notre cœur. Amen. C'est pourquoi ce sont des mystères. Hein? Regardez un peu plus loin le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Et celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, dit l'apôtre. Alors, ce n'est pas une option. Amen. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un mieux de nous qui ne parle pas en langue, vous devez vous dire dans votre cœur, je veux parler en langue, Seigneur, parce que tu veux que nous parlions tous en langue. Ce n'est pas une option. Hein? Et il dit ici, celui qui parle en langue s'édifie. Ce mot est très important parce que Dieu nous a donné, pourquoi Dieu nous a donné une langue nouvelle? Il savait que ce monde était un monde difficile. Il savait que nous avions une mission d'aller apporter la parole à un monde païen. Il savait que nous avions besoin de force. Or, dans l'esprit, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et que nous parlons en langue, nous édifions notre esprit pour qu'il soit fort. Notre esprit a tout reçu, mais il a besoin d'être édifié, ça veut dire d'être branché à la bonne prise. Vous voyez, c'est comme l'électricité. Si vous ne branchez pas votre lampe à la prise, elle ne produira rien. Mais quand vous mettez la prise, dans la bonne prise, vous avez la lumière, l'électricité passe. Eh bien, le parler en langue, c'est pour vous édifier. Ça va fortifier votre foi, ça va édifier votre esprit. Et notre esprit a besoin d'être édifié, car nous sommes soumis à des pressions, à des émotions. La vie sur la terre a des problèmes, il y a des deuils, il y a des souffrances, il y a des pleurs, il y a des déceptions, il y a des trahisons, il y a des situations adverses, j'en parlerai la semaine prochaine de la trahison. J'ai un message là-dessus important. Il y a des choses difficiles dans le monde. Et dans notre vie, nous avons déjà passé des situations et des situations, mais grâce à la force spirituelle au travers des langues que Dieu nous a données, nous avons gardé le cap. Nous avons gardé le cap. Notre esprit, mon esprit est resté fort et le vôtre de même. Voyez à quoi servent les langues ? Dieu nous a donné ce langage afin de parler avec Dieu, afin que nous puissions nous fortifier, afin que nous soyons édifiés, c'est-à-dire branchés à la puissance. Amen. Vous pouvez parler en langue partout, frères et sœurs. Vous avez un rendez-vous difficile, préparez-vous dans la voiture, vous parlez en langue. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais aborder cette personne? Je parle en langue, je me prépare. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Dieu me fortifie au travers des langues. C'est le moyen qu'il a choisi pour fortifier son peuple dans la Nouvelle Alliance. Dans les 9 dons du Saint-Esprit, 7 étaient dans l'Ancien Testament. Les 2, donc ça ce sont des dons, les langues et l'interprétation des langues, eh bien, c'est dans la Nouvelle Alliance, c'est pour l'Église. Je vous parle de la Bible, là, je n'invente pas moi cette histoire. Nous avons la capacité de parler en d'autres langues. Ne la mettez pas de côté. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens, ils avaient commencé dans le feu. Vous les rencontrez 10 ou 20 ans après. Est-ce que vous parlez en langue? Non. Vous en êtes, oh Dieu, je ne sais plus où j'en suis. Naturellement, leur esprit est devenu faible. Ils ont affaibli leur esprit, ils ne sont pas édifiés, ils ne sont pas restés branchés à la bonne prise pour rester solides parce qu'ils avaient tout en eux. Mais le diable a mis tout son paquet d'incrédulité et de doute et ils se sont débranchés d'eux-mêmes. Alors ils sont faibles, ils ont été malades, ils ont vécu des épreuves, comme on en a plus ou moins tous, mais on les aborde avec la force de Dieu, les épreuves. Amen. Je voudrais que on lise encore et après je vais vous montrer quelque chose, Dieu voulant. L'apôtre Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Voyez ? Mais il dit, dans l'Église, prophétisons, c'est autre chose. Parlons par prophétie en français dans l'Église. Mais dans notre vie personnelle, parlons en langue. Regardons un petit peu plus bas. Verset 13. Il va expliquer encore quelque chose en ce qui concerne les langues. Il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc c'est le don des langues. Hein. Vous avez déjà entendu un don des langues. Hein. Quelqu'un se met à parler en langue, un peu plus fort, c'est plus puissant qu'un parler en langue normale. Et normalement, on se tait quand il y a le don des langues. Hein. On le reçoit et on est visité par le Saint-Esprit qui atteste que c'est le don. Et il y a quelqu'un ou la même personne qui va interpréter les langues. Dans l'Église, il doit être toujours, s'il y a le don des langues, il doit y avoir l'interprétation. Parce que Dieu veut que l'Église soit édifié, enseigné. Or, on ne peut pas être enseigné si on parle en langue. Mais on est édifié, enseigné, fortifié par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu intelligible, compréhensible à tous, qui doit être enseignée. Donc, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un a un don des langues, qu'il exprime et que quelqu'un interprète, traduise. Et c'est un miracle de traduire une pensée qu'on ne comprend pas. Hein? Mais c'est donc, il y avait beaucoup de dons dans cette église de Corinthe. Mais regardez ce qu'il dit au verset 14. « Car si je prie en langue, » et l'apôtre Paul priait en langue. Alléluia. Priez en langue, frères et sœurs. Si vous avez des examens, si vous avez des situations à affronter, si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez faible, commencez, mettez-vous dans votre chambre et commencez à prier à haute voix en langue dans votre chambre. Pas à crier, à parler. Vous parlez à Dieu, fermez vos yeux et vous parlez. Vous ne savez pas ce que vous dites peut-être, mais Dieu, lui, le sait. Il va utiliser votre prière et il va vous fortifier, vous édifier et vous rendre. Vous allez avoir des pensées créatrices, vous allez avoir des idées nouvelles, vous allez recevoir surnaturellement de Dieu parce que c'est le moyen qu'il a choisi pour nous connecter également avec le ciel. Bien sûr, nous avons notre foi, mais nous ne devons pas mettre de côté les langues qui sont un moyen de communiquer avec le ciel. Amen. Alléluia. Car si je prie en langue, verset 14, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Quand je prie en langue, ma tête me dit, va faire du repassage, va ranger la chambre, va nettoyer ici. Ma tête travaille, mais ne produit rien. On voit bien qu'il y a une différence. Vous avez remarqué ? Est-ce que vous avez remarqué ? Vous priez en langue et votre tête continue. Donc votre parler en langue elle vient bien de votre esprit. Puisque votre tête et votre esprit, vous le voyez bien, ce n'est pas la même chose. Donc c'est important. Vous avez l'esprit, vous avez le Saint-Esprit, vous priez en langue, alléluia, et votre intelligence ne porte aucun fruit parce qu'elle ne prie pas. Elle vagabonde. Des fois, elle vagabonde. Hein? Et donc on se dit, c'est vraiment par l'esprit que je prie. Hein? Donc, il est dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et j'aime ce verset où il dit, qu'est-ce que je vais faire alors ? Je prierai par l'esprit, ça veut dire en langue, mais aussi avec mon intelligence. C'est ce qu'on fait en français. Je prierai par l'esprit, mais aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais aussi avec mon intelligence. Amen. Vous comprenez ça, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est très importante. Et il dit un petit peu plus loin, il dit, autrement si tu rends grâce par l'esprit, ça veut dire si tu remercies Dieu en parlant en langue, hein, c'est par l'esprit. Comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, dans ton église, répondra Amen à ce que tu dis ? Il ne comprend pas. Comment est-ce qu'il va répondre Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis ? Donc il dit, ne prie pas dans l'église, ne rends pas grâce à Dieu en langue. Rends-lui grâce dans une langue que tout le monde comprend pour que nous puissions dire Amen. Vous voyez ? Mais vous voyez, l'apôtre Paul dit, quand tu pries en langue, quand tu rends grâce à Dieu en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Ah 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 ah. Il est vrai que quand tu pries en langue, quand tu chantes en langue, quand tu as une prière en langue, c'est excellent. Ça veut dire que c'est supérieur au naturel. C'est important, frères et sœurs, ce que je vous dis là. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'en est pas édifié. Donc, frères et sœurs, ça, c'est pour le culte, bien sûr. Mais nous, ce que nous voulons recevoir, c'est notre vie personnelle. Lorsque vous priez en langue et que vous rendez grâce à Dieu dans l'esprit, en langue, la parole de Dieu nous dit, vous rendez d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire, c'est magnifique, c'est supérieur. C'est entre vous et Dieu. Ça, c'est notre vie personnelle. Frères et sœurs, développons une vie personnelle avec le Seigneur. Moi, lorsque je me suis convertie et que j'ai découvert ces choses, j'étais enthousiasmée. J'avais rêvé de choses extraordinaires, mais alors je vais vous dire, c'était le cadeau. En choses extraordinaires, recevoir le baptême du Saint-Esprit, parler en langue, ça dépassait tout ce que j'avais imaginé. J'ai aimé les choses de l'Esprit. J'ai aimé la vie de l'Esprit. Et je libère sur vous cet amour des choses de l'Esprit. Ne soyez pas passifs, mais entrez dans ces choses. Vous serez émerveillés. Vous allez avoir des pensées, des idées nouvelles. Vous allez changer votre objectif. Dieu va pouvoir influencer votre vie en vous donnant des semences de vie spirituelle en réponse à votre vie spirituelle. Et vous allez avoir des pensées nouvelles. Parce que Dieu, vous voyez, il utilise les semences. Les semences que nous donnons, alléluia, il les utilise et il les transforme. Il nous donne toujours des petites choses pour faire des grandes choses. Mais ce sont des choses surnaturelles. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, regardez ce qu'il dit. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié, bien sûr. Donc, on voit bien que votre vie spirituelle, c'est entre vous et Dieu. Les langues, c'est entre vous et Dieu. Donc, lorsque nous faisons notre réunion de prière le mercredi, nous prions en langue et en français, mais aussi en langue parce que nous prions en langue. C'est normal de prier en langue et en français. Amen. Et il est dit, là, l'apôtre Paul, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église. Amen. Donc, voyez que la prière en langue, c'est quelque chose d'important qu'il faut libérer. Alléluia, dans nos vies. Qu'il faut comprendre et aimer, parce que c'est comme une aventure avec Dieu. Hein? Vos aventures avec Dieu sont spirituelles. Elles vont vous aider, elles vont vous donner de l'espérance, elles vont vous donner des choses nouvelles. Amen. Alors je voudrais pour terminer que l'on regarde dans Matthieu 13, parce que ça c'est pour terminer. Est-ce que vous avez bien compris pour les langues, hein? Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais on y reviendra. Mais regardez, je voudrais vous parler de Matthieu 13 un instant. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais... Matthieu 13. C'est pour vous montrer que Dieu nous a donné les langues pour nous édifier. Mais regardez ce qui va se passer là, dans ce passage. C'est donc verset 24. Le Seigneur est en train de donner des paraboles. Qu'est-ce que c'est la parabole? Vous voyez? Jésus connaît le royaume de Dieu. Il est le roi. Il connaît le royaume. Là où Dieu règne. Là où Dieu a créé le monde, l'univers, Dieu. Vous voyez? Et Jésus, il dit, comment je vais faire passer une pensée divine qui vient du royaume dans le monde terrestre aux gens? Comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre une parabole, c'est-à-dire je vais prendre un exemple qui est inspiré de leur vie, de ce qu'ils connaissent. C'est ça le sens de la parabole, pour leur donner une idée des choses célestes. Et la parabole, Jésus utilisait beaucoup de paraboles parce que comment on peut traduire le royaume de Dieu? Nous, on ne sait pas comment il est. On ne peut pas l'imaginer parce qu'on est des êtres humains. On peut avoir des idées, mais on ne peut même pas imaginer la beauté, la grandeur du royaume de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas connaître Dieu non plus avec notre intelligence, parce qu'il est omniscient, omniprésent. On ne peut pas. C'est un monde, c'est énorme. C'est pourquoi on a Jésus qui nous aide à comprendre et à connaître, parce qu'il nous a révélé le Père. D'accord? Alors regardez la parabole de Jésus là. Il va dire une autre parabole. Le royaume des cieux, donc c'est nous qui devons vivre dans le royaume des cieux. Hein. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Frères et sœurs, c'est ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous êtes ces bonnes semences. Vous êtes les bonnes semences que Dieu a semées dans son champ qu'est le monde. Nous sommes de bonnes semences. C'est fait, vous n'êtes pas des mauvaises semences, vous êtes tous, nous sommes tous des bonnes semences. Semence. Alléluia. Nous avons reçu la semence de Dieu et nous sommes des bonnes semences que Dieu a semées dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, ça veut dire que vous voyez, nous sommes de bonnes semences, mais nous sommes des êtres humains. Donc des fois on est fatigué. On va se coucher, on est fatigué, on s'endort. Hein? C'est normal parce qu'on est des êtres humains. Hein? Et donc, où on peut être fatigué par toutes sortes de choses. Et donc là, vous voyez que ces gens, c'était les bonnes semences, c'était nous. Nous sommes des bonnes semences. Et voilà qu'on s'endort. Et que pendant que ces gens dormaient, eh bien, un ennemi vient et sème de l'ivraie parmi le blé, ça veut dire parmi les bonnes semences, et s'en va. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous dire, donc, pourquoi nous avons les langues, pourquoi nous avons le Saint-Esprit. C'est que dans votre vie, maintenant que vous êtes de bonnes semences, et nous sommes de bonnes semences, l'ennemi sème de l'ivraie. Il sème des problèmes, il sème des situations adverses. Il en sème dans le monde pour tout le monde, mais il en sème surtout parce qu'il craint ces bonnes semences que vous êtes. N'oubliez pas, vous êtes de bonnes semences. Et donc, il sème de l'ivraie. Il sème des problèmes, il sème des épreuves, il sème des situations adverses, pensant que ces bonnes semences vont s'épuiser et vont se distraire de leur appel et aller courir après les problèmes et les situations adverses. Or, qu'est-ce que Jésus dit là? C'est très important pour nous. Et il dit, pendant que les gens dormaient, un ennemi vint, il sème de l'ivraie. C'est-à-dire une mauvaise semence, des épreuves, des problèmes parmi le blé, au milieu de ceux qui sont des bonnes semences. Et voilà que quand les gens ont grandi, l'herbe a poussé, l'ivraie est également apparue. Alors les serviteurs du médic, qu'est-ce qu'on fait? On va l'arracher. Hein? On a des problèmes, on va se battre pour les problèmes. On va les résoudre à notre façon, on va mettre de notre capacité pour résoudre les problèmes. Pour arrêter les épreuves, pour faire que les choses s'arrêtent. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Non, 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 arrêtez. Vous voulez faire les choses par vous-même? Vous voulez vous battre? Non, 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 non. Laissez tranquille tout ça. Marchez votre route. Restez fort. Restez concentré. Dieu, pendant que vous tenez ferme, il va vous donner la stratégie pour passer et réduire la puissance de l'ivraie. Mais vous voyez, dans ce passage-là, le Seigneur va dire, non, 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 laissez, ne touchez pas, ne touchez pas à l'ivraie, ne laissez tout ça, ne vous en occupez même pas. Restez dans la paix, avancez, continuez, car vous êtes la bonne semence de Dieu, et le diable le sait. Et il essaie de semer des mauvaises semences, mais vous, avancez. Et ne restez, ne soyez pas distraits. Parce que quand vous avancez, que vous continuez de louer Dieu, de remercier Dieu, de prier, qu'est-ce qui se passe? Dieu vous donne la stratégie pour résoudre les problèmes. Et le diable est totalement vaincu. Mais si vous êtes distrait, si vous commencez à regarder et vous mobiliser sur les problèmes, vous perdez votre position, vous vous fatiguez, vous vous épuisez. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes éprouvé? Qu'est-ce que vous faites quand la livrée arrive, quand les épreuves arrivent? Vous avez les langues, vous vous encouragez vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous édifiez, vous commencez à prier dans l'esprit, à chanter dans l'esprit. Vous rendez grâce à Dieu, alléluia. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de passer, d'avoir la force de passer à travers l'épreuve. Et Dieu est en train de vous donner la force surnaturelle de passer au travers de l'épreuve. Et c'est pourquoi Jésus a dit, laissez tomber l'ivraie. Les attaques du diable et tout ça, ne vous focalisez pas dessus. Regardez ce qu'il dit. Hein? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez de même le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et alors le Seigneur va s'en occuper. En vérité, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur va s'en occuper. Il y a des choses dans notre vie, Dieu nous demande de rester mobilisés, de rester focalisés et de nous édifier nous-mêmes, de nous fortifier avec les langues, de prophétiser sur notre vie, de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu, alléluia, et de ne pas arrêter notre marche et de ne pas regarder à ce que l'ennemi fait pour nous décourager. Parce que l'ivraie a toujours pour but de vous décourager. Et lorsqu'on est découragé, ben on n'a plus de force pour se battre. Donc si on reste focalisé sur Dieu, nous, les bonnes semences, alléluia, vous voyez que l'ivraie est jetée contre les bonnes semences. Ça veut dire, vous êtes une bonne semence, vous resterez une bonne semence. Quoi que fasse l'ivraie, vous avancerez toujours en tant que bonne semence. C'est ça que je voudrais vous dire ce matin. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes la bonne semence de Dieu. Rien ne peut changer cela. Est-ce que ce n'est pas la grâce? Si vous êtes rempli de cela, vous allez être heureux dans votre vie. Si vous savez que vous êtes la bonne semence, on vous a dit peut-être, ah, tu es la mauvaise fille, le mauvais garçon, ah, tu es un mauvais sujet. Et vous pensez ça de vous ? Non, 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 non. Si vous êtes chrétien, c'est terminé tout ça. Vous êtes la bonne semence de Dieu. Je suis une bonne semence. Moi aussi, quand j'étais enfant, on m'a dit « Oh, tu es comme ci, t'es pas comme ça, ça va pas. » J'en étais rempli de cette pensée-là. Mais petit à petit, j'ai changé ma mentalité. J'ai pris la mentalité de Dieu, mon identité en Christ. C'est pareil pour vous, frères et sœurs. Dieu ne s'intéresse pas au passé. Il est résolu pour lui. Vous êtes parfait pour Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus nous a tous lavés. Est-ce qu'il y a un pécheur plus grand que l'autre ? Quand on est pardonné, on est pardonné. Les péchés sont les péchés. L'erreur, c'est l'erreur. Le péché, c'est manquer la cible. On se trompera toujours quand on reste dans nos péchés. Mais quand on vient à Jésus, on est pardonné. Alléluia. On est la bonne semence de Dieu. On ne sera jamais une mauvaise semence. N'acceptez jamais cela. Vous êtes la bonne semence. Vous êtes la bonne semence de Dieu. Quoi que ce soit que vous fassiez, Dieu voit sa bonne semence et il dit, ne te laisse pas détourner par l'ivraie que l'ennemi de ton âme a jeté, parce que tu es une bonne semence. Et lui, Satan, il le sait, mais toi, tu crois que tu n'es plus cette bonne semence. Tu doutes de toi. Et Satan, il le voit. Il t'envoie les problèmes, il t'envoie les épreuves. Et d'un seul coup, tu dis, ah, je suis la bonne semence de Dieu. Seigneur, je prie en langue, je chante en langue, je te remercie. Et Dieu me donne la stratégie pour détruire l'arme que le diable veut lever contre moi. Et je passe à travers ça. Son ivraie ne sert à rien. L'ivraie ne peut pas détruire le blé. Vous comprenez ? L'ivraie sera étouffée par le blé. Et l'ivraie va aller où ? Eh bien, en enfer. Elle va aller brûler. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je termine là-dessus. Les langues sont importantes pour nous édifier. C'est notre vie personnelle. Nous prions en français, mais nous prions en langue. Il nous faut développer cette capacité parce que ça nous donne un esprit fort. Notre esprit a besoin d'affronter les problèmes de la vie. Ne pas de fuir, mais de les affronter, de les confronter. Et lorsque nous fortifions notre esprit, je vais vous dire, avec la prière en langue, avec le chant en langue, avec les choses de l'esprit, nous faisons quelque chose d'excellent. Et Dieu dit, alléluia, eh bien, tu vas passer à travers. Toutes les épreuves, tu auras toujours la victoire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je veux te remercier ce matin parce que nous sommes un peuple de Dieu baptisé du Saint-Esprit. Nous avons reçu ton esprit, Seigneur, et nous parlons en langue. Et Seigneur, nous nous édifions nous-mêmes, Seigneur, dans les langues. Parce que, Seigneur, au travers des langues, nous recevons des pensées, nous recevons des idées nouvelles, nous recevons des semences pour notre vie personnelle. Tu nous montres des choses surnaturelles. Nous pouvons prophétiser, Seigneur, sur nos affaires, notre église, notre ville, notre pays. Nous pouvons parler spirituellement, prophétiquement, et voir les choses se produire, parce que c'est le monde de l'esprit. Seigneur, je libère, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur, cette connaissance afin qu'elle soit mise en pratique dans nos vies.